nous allons lire dans le livre d'Agé. Agé, chapitre 1. La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du sixième mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agé. Voici les termes de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent « Le temps n'est pas encore venu, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. » Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé. « Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées alors que ce temple est en ruine ? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait ? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie, voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agé, que l'Éternel leur avait envoyées, et le peuple révéra l'Éternel. Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmis au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. « Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. » Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la deuxième année du règne de Darius. » Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te demandons vraiment que tu travailles nos cœurs, nous te demandons que ton esprit nous remplisse pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire ce matin par ta parole. Amen. C'est un message étonnant qui arrive là, au début du livre d'Agé. Et puis, je crois qu'à chaque fois que je lis ce texte, il y a une question qui me préoccupe, c'est de savoir, mais en fait, quelle place vraiment est-ce que j'accorde à Dieu dans ma vie ? Parce que le message d'Agé est clair, mais préoccupez-vous premièrement de Dieu. On se dit, mais bon... pas toujours facile à savoir comment comprendre, quand est-ce qu'Agé a parlé. Je ne sais pas si vous avez vu, au début il est dit, mais c'est la deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du sixième mois. Non, donc c'est quand même assez précis comme prophétie. Et si on veut comprendre ce texte, ben on est obligé de se rappeler un peu où il a eu lieu. Vous connaissez peut-être un peu l'histoire d'Israël, la dernière fois on a parlé du tabernacle, la construction du tabernacle. Dieu a donné un modèle du temple qu'il voulait que les Israélites construisent. Puis ensuite, les Israélites ont construit cette tente, ils sont arrivés en pays de Canaan, il y a eu David, il y a eu Salomon qui a construit un temple en briques cette fois, en pierre, un magnifique temple. Et puis, il y a eu des hauts et des bas dans la relation entre Dieu et son peuple. Et puis, un jour, que la relation était au plus bas, ben, le peuple a été détruit. Le pays s'est fait envahir par les Babyloniens, par Nabuchodonosor, et puis d'autres, en fait. Il y a eu plusieurs vagues. Et le peuple s'est fait déporter. Et puis, vous savez ce que c'est, hein, quand c'est la guerre, on fait quoi? Bah, on s'arrange pour que nos ennemis ne puissent pas se relever. Hein. Donc, on casse tout. Et là, quand les ennemis d'Israël sont arrivés, ils ont tout rasé. Ils ont même rasé le temple. Ils ont rasé le temple que Salomon avait construit. Et les prophètes avaient prophétisé ce moment en disant, mais si vous ne retournez pas vers l'Éternel, vous allez être déportés, vous allez avoir des problèmes. Et puis, il y a même un prophète, c'est un doute d'un coup si c'est Ésaïe ou Jérémie, qui dit, mais un jour, Dieu va appeler un homme, Cyrus, qui va permettre au peuple de retourner dans son pays. Et donc le peuple est déporté à Babylone, il y a d'autres personnes qui sont emportées en Israël, d'autres peuples. Et tout d'un coup, il y a un empereur qui arrive, qui s'appelle Cyrus. C'est ça, un Perse. C'est assez compliqué, en fait, toutes ces histoires, parce qu'il y a des Perses, il y a des Babyloniens, il y a des Chaldéens. Mais en gros, ceux qui ont envahi Israël, ils se sont dit, ah, mais on est super fort, on est super balèze, on est bien plus puissant que Dieu. Puis Dieu, il a dit, non, 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 si vous avez pu envahir Israël, si vous avez pu détruire le temple, c'est grâce à moi. Et puis il a envoyé un autre empereur, le pouvoir a changé de main, et il y a Cyrus qui devient roi. Et Cyrus a une politique complètement différente que celle de ses prédécesseurs. Avant, ils allaient dans les temples, ils prenaient toutes les richesses et ils les amenaient à Babylone, puis ils disaient, mais voilà, on est plus puissant que ces dieux, et tout va bien se passer pour nous. Cyrus, il fait l'inverse, il se dit, bon, hein, le plus de dieux seront pour moi, le mieux je me porterai. Alors il rend les objets sacrés qu'il a volés, il les donne à Israël et il leur dit, allez bâtir votre temple. Vous imaginez, le peuple, il est à l'autre bout du monde, loin de son pays, d'un coup il y a le roi qui dit, mais vous pouvez y aller maintenant, c'est bon, je vous rends ce que j'ai pris et vous pouvez aller à Jérusalem, vous pouvez aller rebâtir votre temple. Alors les Israélites s'organisent, en tout cas une partie, pas tout le monde ne part pas, mais une partie s'organise, ils organisent une grande collecte et ils partent avec ce que le roi leur a donné, le roi Cyrus, pour aller à Jérusalem pour reconstruire le temple. Qu'est-ce qu'ils trouvent sur place? Ils trouvent plusieurs choses. Bon, ils trouvent déjà une ville qui n'est pas en très bon état, qui a été détruite, mais ils trouvent aussi un pays qui est habité. Qui est habité par des gens qui voient d'un très mauvais œil le retour des Juifs. Parce que c'est chez eux maintenant. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Mais ils arrivent plein de fougue, plein de zèle. Vous pouvez lire cette histoire en Esdras. Et la première chose qu'ils font en arrivant à Jérusalem, c'est qu'ils reconstruisent l'autel de l'Éternel. Parce qu'ils se disent, mais on a été envoyé avec une mission précise, celle de rebâtir le temple, celle de se retourner vers Dieu, de retourner vers lui, et puis de pouvoir à nouveau lui rendre un culte comme il l'aime, afin qu'il nous bénisse, qu'il nous purifie, et qu'on puisse habiter en paix dans notre pays. Alors ils construisent l'autel, ils offrent des sacrifices. Et puis ils se décident à se mettre à l'ouvrage. Puis ils sont observés. Il y a d'autres peuples qui sont là aux alentours, à Jérusalem et dans les environs. Et puis ils disent, mais est-ce qu'on ne peut pas participer avec vous à la reconstruction de ce temple? Après tout, nous adorons le même Dieu que vous. Et cette histoire, ça m'interpelle. Parce que je me dis, des fois dans nos vies, c'est un petit peu la même chose. On arrive et puis on se dit, mais oui, on va construire notre vie avec Dieu. Puis on pose un autel parce qu'on se dit, mais la première chose qu'on va faire, on va mettre Dieu au centre. Puis ben, l'autel, c'était assez indispensable pour faire la purification, pour offrir des sacrifices à Dieu, pour être en bonne relation avec lui. Et dans notre vie, on fait comme ça, on met Dieu au centre. Puis dès qu'on met Dieu au centre, ben, tout d'un coup, il y a plein de choses qui nous arrivent. Puis il y a des gens qui viennent nous dire, mais oui, mais moi aussi, je crois en Dieu. Moi aussi, j'ai envie de faire la même chose que toi, j'ai envie de faire du bien aux autres. Finalement, ce que tu crois, toi et moi, c'est pas si différent. Mais quand on gratte un petit peu, bien sûr que les populations qui étaient restées, ils avaient pris quelque chose de la religion d'Israël. Mais ils n'avaient pas abandonné leurs anciennes coutumes, ils n'avaient pas abandonné leur propre Dieu. Puis ils ont fait une espèce de gros mélange entre la vérité qui vient de Dieu et leurs coutumes qui venaient de leur tradition et de faux Dieu. Et si on regarde autour de nous, c'est un peu la même chose. Quand on devient chrétien, il y a certaines choses qui collent avec le monde qui nous entoure. On aime faire du bien aux gens, par exemple. Et ça colle avec notre société. On a envie que les gens aient bien. On croit en une puissance supérieure. Tout ça colle. Mais il y a des choses qui ne collent plus. On croit que Jésus-Christ est le seul chemin vers le Père. Ça, vous pouvez aller l'annoncer autour de vous. Je suis sûr que vos collègues, que vos amis, que votre famille vont dire non, mais quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas construire quelque chose avec quelqu'un qui est si exclusiviste, qui pense qu'il a raison et que tout le monde a tort. Mais Israël dit, ben, non, on va s'occuper de reconstruire ce temple et c'est à nous de le faire et pas à vous. C'est au peuple de Dieu de le faire et pas aux étrangers. Alors, hein, quand ils disent ça, leurs voisins sont frustrés, sont choqués, ils se disent, bon, ben, ils ne veulent pas faire avec nous. Alors on va voir ce qui va se passer. Et ils leur mettent des bâtons dans les roues. Ils envoient des lettres pour leur créer des ennuis. Ils appellent le big boss pour dire hey, mais tu as vu ce qu'ils font? Ils leur font la guerre quand c'est nécessaire. Et qu'est-ce qui se passe? La construction s'arrête. Les Israélites arrêtent de reconstruire le temple. Il devait y avoir des gens qui disaient mais c'est pas encore le moment de reconstruire le temple de Dieu. Parce que si c'était le moment, les choses seraient plus faciles. Il n'y aurait pas d'opposition. Puis quand on réfléchit à ça, on se dit, mais effectivement, c'était peut-être pas le moment de construire le temple. Ils arrivent dans un pays qui est dévasté. Alors, la première chose, quand on arrive dans une ville à cette époque, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, déjà, il faut trouver de quoi se loger, hein. Il faut cultiver les champs. Il faut reconstruire la muraille de Jérusalem parce que sinon on risque de se faire attaquer par tous les ennemis et d'être vulnérable. Et puis alors, ils arrêtent pour toutes ces bonnes raisons. Puis on se dit, mais c'est des bonnes raisons. Et dans nos vies aussi, on a plein de raisons pour se dire, mais il y a des choses qu'il faut qu'on fasse avant de mettre Dieu au centre de nos vies. Parce que si dans nos familles tout va bien, ce sera plus facile de mettre Dieu au centre. Si dans notre travail, on prospère, ce sera plus facile de mettre Dieu au centre. Si dans nos loisirs, tout va bien, ben on pourra plus facilement témoigner. Puis on met tout plein de choses, puis on se dit, mais quand ça ira mieux, ce sera le moment de reconstruire le temple de l'Éternel. Mais ici, il y a quelque chose qu'ils ont raté. Est-ce qu'il n'y a pas Cyrus? Son nom avait été donné par les prophètes avant qu'il parte en déportation. Il est venu, il a donné de l'argent pour la reconstruction du temple. Ils ont pu arriver. Est-ce que ce n'était pas assez clair à leurs yeux? Les 70 ans que Jérémie avait prophétisé, les 70 ans d'exil étaient arrivés à leur terme. Est-ce que ce n'était pas assez clair que c'était le moment de reconstruire le temple de l'Éternel? Le temps n'est pas venu pour reconstruire le temple. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Est-ce que les Israélites n'avaient-ils pas réfléchi? Moi, je pense qu'ils avaient beaucoup réfléchi à ce qu'ils faisaient. Parce que, bon, ils avaient quand même fait un pas de foi en quittant le pays où ils s'étaient installés. Ce n'était pas le pays promis, mais ils s'étaient installés, ils avaient planté des vignes, construit leur maison, ils avaient marié leurs filles et leurs fils. Puis ils retournent dans ce pays. Alors, moi, je pense ils ont beaucoup réfléchi. Le problème, c'est qu'ils ont mal réfléchi. Ils ont réfléchi sans tenir compte de Dieu, sans tenir compte de ce que Dieu leur demandait. Vous semez beaucoup et vous ne recueillez pas. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Les Israélites travaillent beaucoup, ils agissent, mais le résultat n'est pas à la hauteur. Ils cultivent des champs, il n'y a pas de récolte. Ils ont faim et froid, ils n'ont pas d'argent et pourtant, ils travaillent. Réfléchissez bien à ce qui vous arrive. Réfléchissez correctement. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, bâtissez le temple. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, vous comptiez sur beaucoup et vous avez peu? Qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre à son peuple? Le peuple manque des choses essentielles pour subsister. Ce n'est pas le dernier iPhone, ce n'est pas la télévision, ce n'est même pas l'électricité, c'est à manger, c'est de l'argent pour vivre, c'est des vêtements pour avoir chaud. C'est la base. Et pourquoi est-ce qu'il leur manque tout cela? Parce que le temple est en ruine. Et on a envie de se pose la question, mais et alors? Qu'est-ce que Dieu peut bien en avoir à faire d'avoir quelques pierres qui sont tassées les unes sur les autres pour une maison? Après tout, n'est-il pas le Seigneur de l'univers? N'a-t-il pas les cieux comme demeure? Alors, quelques pierres entassées, pourquoi est-ce qu'il fait souffrir son peuple juste parce qu'il n'a pas mis quelques pierres les unes sur les autres? Est-ce que nous avons affaire un Dieu cruel? N'a-t-il pas pitié de son peuple de voir qu'il souffre, qu'il est dans l'angoisse, dans la faim? Ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. Sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Où est le Dieu de grâce que nous connaissons? Et je pense qu'il faut se replonger quelques siècles auparavant dans le contexte dans lequel ils sont. Vous savez, aujourd'hui on est dans un monde où Dieu n'existe plus. Quand on discute avec nos contemporains, Dieu, c'est une question de loisir, c'est pas tellement une question centrale. Mais à l'époque des Israélites, Dieu est une question centrale. Il y en a même qui offraient leurs fils et leurs filles en sacrifice pour des dieux. Et c'est pas juste pour Israël, mais pour toutes les peuplades environnantes. Et Israël a un Dieu absolument fantastique. Déjà, il a qu'un seul Dieu. Pas besoin de se poser la question si c'est mon blé qui pousse pas, quel Dieu je dois aller adorer? Ensuite, il a un Dieu qui est fidèle et qui est toujours le même. Et il dit, mais si tu me mets au centre, tu auras tout ce dont tu as besoin. En Lévitique 26, il dit que si le peuple se comporte correctement envers Dieu, ils ne manqueront pas à manger, ils ne manqueront pas à boire, ils auront tout ce qu'il faut pour vivre. Mais s'ils continuent dans leur mauvaise voie, ils seront déportés. Après des années d'exil, après que ces paroles se soient accomplies de Lévitique, ils se sont détournés, ils ont été déportés. Ils retournent au pays de manière miraculeuse. Et qu'est-ce qui se passe? À peine arrivés, ils se détournent de Dieu. Ils recommencent, ils commettent les mêmes erreurs que leur père. Ils s'obstinent, ils veulent y arriver par leur propre force. Mais Dieu ne veut pas qu'ils fassent la même chose, Dieu ne veut pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. Ils veulent qu'ils reconnaissent la souveraineté de Dieu. Dieu veut les bénir en habitant au milieu de son peuple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de ce tabernacle où Dieu se révélait et le tabernacle était posé au milieu du campement des Israélites. Et là, c'est la même chose. Dieu veut être au milieu de son peuple pour être présent avec son peuple. Et où est-ce que, symboliquement, Dieu réside ? Dans son temple, n'est-ce pas? Même si on sait qu'il n'a pas besoin de ça pour se révéler. Mais l'habitation de Dieu, c'est son temple à Jérusalem. Et qu'est-ce qui est détruit? C'est le temple. Les Israélites se sont empressés de reconstruire leurs maisons. Il est dit qu'ils ont des maisons lambrissées. Lambris, c'est ça. Alors, à l'époque, c'était très joli, le lambris. Hein, c'était pour dire, mais ils ont terminé de construire leur maison. Mais mon temple, il est en ruine. En gros, ils sont préoccupés d'eux-mêmes, de leur confort, et ils ont mis Dieu à la seconde place. Ils ne lui ont pas donné la première place dans leur vie. Et des fois, je me dis, dans nos vies, c'est un peu la même chose. On est tout fleu, tout flamme pour Dieu, on construit un hôtel dans nos vies, puis on sait qu'il y a d'autres choses qui vont être bâties sur Dieu. Au lieu de continuer avec le même zèle avec lequel on a commencé, on s'arrête. On s'arrête et puis on retourne à nos préoccupations et on arrête de construire la maison de Dieu. Le temple, c'était le lieu où Dieu habitait au milieu de son peuple, où il s'y révélait. Mais c'était aussi le lieu où on offrait les sacrifices pour la purification du peuple, pour la purification du pays. Et si le temple n'était pas rebâti, comment est-ce qu'Israël allait pouvoir demander pardon pour ses péchés? Comment est-ce que le peuple allait pouvoir être purifié pour ses mauvaises actions? Mais cette maison est détruite. Et si Dieu n'habite pas dans son temple, si Dieu n'habite pas au milieu de son peuple, est-ce que le peuple est toujours le peuple de Dieu? Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. Dieu ne revient pas sur sa promesse. Oui, il est toujours le peuple de Dieu, et oui, Dieu a envie d'habiter au milieu de son peuple. Le message d'Agée est donc de rebâtir le pays, de rebâtir sa vie, en mettant Dieu au centre, en rebâtissant le temple. Et c'est étonnant, parce que si on lit le livre d'Esdras, ils écoutent Agée et ils se mettent à rebâtir le temple. Et la muraille de Jérusalem n'est pas encore rebâtie. Et si on réfléchit, humainement parlant, ils sont dans un contexte hostile avec des ennemis qui ont envie de leur casser la figure. Et eux, alors ils ont reconstruit leur maison avant le temple, ils auraient peut-être dû faire l'inverse, mais après ils reconstruisent le temple. Ils ne reconstruisent pas la muraille, d'abord ils reconstruisent le temple. En toute logique, on se serait dit, on va rebâtir la muraille, puis une fois qu'on est bien en sécurité, on bâtit le temple. Et eux, ils font l'inverse, ils se disent, mais ce qui va nous procurer de la sécurité, ce n'est pas un gros mur de pierre, c'est la présence de Dieu. Alors on va concentrer nos efforts pour rebâtir le temple, et Dieu nous protégera. Et quelques années plus tard, ou quelques temps plus tard, après la reconstruction du temple, Dieu suscite Néhémie qui vient et qui rebâtit la muraille. De manière assez extraordinaire, de nouveau, il obtient l'oreille du roi qui lui donne un laissez-passer, qui lui donne des matériaux pour reconstruire la muraille. Ce texte d'Agée est vraiment une invitation à mettre Dieu au cœur de nos vies. Et là, il y aurait un petit raccourci qu'on pourrait très vite faire en disant, mais remettre Dieu au cœur de reconstruire le temple, c'est reconstruire l'église. Vous savez, ce serait très pratique de dire ça. Hein, surtout, vous savez, les finances de l'église, ça fait des hauts, ça fait des bas, et puis il y a toujours des besoins. Et puis ce serait tellement facile de faire le raccourci, et pour que vos vies aient bien, il faut reconstruire l'église. Et peut-être ça marcherait, peut-être ça... Ça donnera un petit coup de boost, tout le monde serait tout feu, tout flamme pendant quelques temps. Mais je ne crois pas que Dieu nous appelle à ce que l'Église soit au centre de nos vies. Qu'est-ce qui doit être au centre de nos vies? C'est Dieu, c'est Jésus. Ah, puis, ce n'est pas avoir un beau bâtiment qui fait qu'on a mis Dieu au centre. C'est bien plus profond que ça. Ce n'est pas juste l'Église, c'est toutes nos vies qui doivent être bâties sur Christ. Puis dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs choses qui sont appelées le temple de Dieu. Est-ce que vous savez quoi? On peut penser à Christ. Quand il est entré dans le temple, il a dit, si vous pouvez détruire ce temple en 3 jours et je le rebâtirai. Et après, les disciples ils comprennent, ah oui, il est en train de parler de son corps. Et puis, il est dit en 1 Corinthiens 3, versets 16-17, Vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et puis, il y a aussi en 1 Pierre 2, versets 4 à 10, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Puis les questions après de la construction d'un temple spirituel pour Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais regardez un petit peu autour de vous. Chacun là, vous avez tout plein de petits temples de Dieu. Puis il y a peut-être des gens qu'on apprécie, il y a peut-être des gens qu'on apprécie moins. Puis tout ça, on est appelé à être le temple de Dieu. Et Dieu va utiliser chacun d'entre nous, va le poser à un endroit pour construire une maison spirituelle pour Dieu. Puis la question, c'est pas est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il ne va pas le faire ? Une fois qu'on va se tourner vers Dieu, Dieu va, il va le faire, il va nous positionner chacun à un endroit pour former son temple. Je me dis, c'est juste incroyable. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Est-ce qu'on va attendre que Dieu de force nous pose au bon endroit, nous taille et puis mettre toute notre résistance pour faire ce temple ? Ou est-ce qu'on va y entrer avec zèle, avec ardeur, pour construire quelque chose qui soit agréable à Dieu. Et je me dis, mais ce sera beaucoup plus simple. Si on y va avec zèle, ce sera agréable. Puis quand on met Dieu au centre de nos vies, ce n'est pas dire qu'il n'y a jamais d'opposition, hein, ce n'est pas dire que tout roule. Quand ils ont commencé à construire l'autel, ils ont eu des problèmes. Mais quand on persévère pour vraiment entrer en communion, dans une communion profonde avec Dieu, mais Dieu, il pourvoit aussi à tout le reste. Il permet que nos vies se passent bien. Pas toujours comme on le voudrait. C'est pas... On est encore sauvés en espérance. Hein. Ce sera quand il reviendra qu'on va vraiment tout voir de nos propres yeux. Mais Dieu, il pourvoit nos besoins. Il nous guide. Puis des fois, on se dit, mais... moi, ça va. Moi, je reconstruis bien le temple. Mais lui, là-bas, il fait n'importe quoi de sa vie. Ah, c'est pas vraiment un chrétien. Qu'est-ce qu'il dit Dieu quand son peuple, dans Agé, là, il dit, mais hey, je suis toujours votre Dieu, je suis avec vous, c'est moi l'Éternel qui vous parle. Hein, puis qu'on soit content ou pas content de notre voisin, ça ne fait pas de lui quelqu'un de moins chrétien que nous. Et on a tous de multiples raisons pour se dire que ce n'est pas le bon moment de mettre Dieu au centre de nos vies. Hein, peut-être parce que on a trop de difficultés, peut-être parce que dans l'église ça a été trop compliqué, peut-être que... Il y a toutes sortes de raisons. Peut-être que dans nos vies professionnelles ça n'a pas été comme on le voudrait, peut-être que dans nos vies familiales c'est pas comme on voudrait. Mais c'est aujourd'hui le temps pour rebâtir la maison de Dieu. Parce que si on met nos vies centré sur Dieu, si on bâtit son temple, on aura un endroit où on pourra trouver Dieu. Il y aura un endroit où on pourra aller dans l'intimité de Dieu. On pourra entrer dans ce temple et dire, mais Seigneur, viens me purifier. Seigneur, viens bénir tel aspect de ma vie. Et quand même, quand on parle de la maison de Dieu, je crois qu'on ne peut pas totalement faire abstraction de l'Église. Et je crois qu'il y a vraiment des fois des défis dans l'Église, des choses où on se dit, mais non, maintenant, ça suffit, stop. Et je crois qu'on aurait tous de bonnes raisons de se dire, non, mais maintenant, on va aller faire autre chose. Hein, on va consacrer un peu plus de temps à nos familles, à nos professions, à nos loisirs, à ce qu'on avait envie de faire. Ce n'est pas le moment. Et je crois que le message de Dieu, il est tout autre. Mais oui, aujourd'hui, c'est le bon jour pour mettre Dieu au centre de nos préoccupations, pour mettre Dieu au centre de nos vies. Et c'est un projet fantastique qu'il nous demande de construire. Et il pourvoit, et il continuera à pourvoir, et il continuera à marcher avec nous. Puis on se dit, mais avec quoi est-ce qu'on va bien pouvoir construire ce temple ? Pas de nouveau, hein. Regardez à droite, à gauche. Il y a plein de choses, hein. Il y a une pierre, 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 il y a une pierre que Dieu a posée, que Dieu va préparer, que Dieu va tailler, que Dieu va transformer, que Dieu va rendre parfaite pour entrer à la bonne place. On a tout ce qu'il faut. Dieu va nous donner tout ce qu'il faut pour lui bâtir une maison qui lui soit agréable. Je vais prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui prend plaisir à habiter au milieu de son peuple. Et Seigneur, ce matin, tu nous invites à bâtir ton temple, à te mettre au centre de nos préoccupations. Seigneur, nous voulons construire des vies où tu es le centre. Nous voulons te mettre à la première place. Nous voulons que la première préoccupation, ce soit que dans nos vies, il y ait un temple qui soit construit, un bel édifice, un ouvrage solide dans lequel nous puissions te rencontrer. Seigneur, viens nous montrer comment faire, viens nous transformer, viens à notre rencontre. Viens au secours aussi de notre Église, Seigneur. Place les bonnes personnes au bon endroit, pourvois à tous nos besoins. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous des pierres vivantes, un temple du Saint-Esprit. Et nous voulons te dire, bienvenue Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous habiter, viens nous purifier de tout ce qui aurait pu nous souiller. Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen.